Je vous propose une reprise du culte de ce dimanche 12 juillet. Nous avons eu un problème avec l'enregistrement d'Instagram en batterie tout simple, mais qui n'a pas permis d'avoir le message enregistré. Donc je vais faire un rapide résumé pour ceux qui voudraient suivre cette introduction au prophète Ésaïe. Nous avons considéré ce dimanche l'alliance entre Dieu et Israël. Cette alliance remonte à Moïse sur le mont Sinaï. Donc les prophéties que Dieu avait fait à Abraham concernant sa postérité, concernant le séjour de sa postérité dans un pays où il serait asservi et au bout de 400 ans, le retour vers la terre promise de tout le peuple qui serait devenu nombreux et avec de grandes richesses. Donc cela s'est accompli avec Moïse. Donc Dieu a suscité Moïse qui a libéré le peuple et l'a conduit hors d'Égypte jusqu'à l'installer aux portes de Canaan. Lorsque nous étions dans le culte pour les enfants, il y avait de belles illustrations d'images tirées du film Les Dix Commandements. Là, je ne vais pas les images en service, bien sûr, c'est un message vocal. Juste un petit résumé, voilà. Donc, Moïse, sauvé des eaux, qui grandit, qui s'intéresse à son peuple, le peuple hébreu, qui doit fuir l'Égypte parce que c'est avéré qu'il a fait un assassinat. Et il reste dans le désert pendant 40 ans, devient garde les troupeaux de Jéthro, le sacrificateur de Madian. Et ensuite, donc, c'est l'épisode du buisson ardent, l'appel de Dieu qu'il renvoie à l'Égypte avec la mission de libérer le peuple. Et là, ce sera les dix plaies d'Égypte. Donc, pendant le culte, nous avons rafraîchi nos neurones nous souvenant de ces dix plaies. Donc, l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches vénéneuses, la mortalité du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et pour terminer, la mort des premiers-nés. Suite à cette dernière plaie, les Israélites peuvent partir, ils prennent les richesses avec eux, et donc ensuite, accueillis à la mer Rouge, il y a l'ouverture des eaux, le franchissement de la mer Rouge, l'anéantissement de l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Et le peuple se retrouve au pied du mont Sinaï, et là la montagne est embrasée, Dieu parle au peuple, et donc lui propose une alliance, et le peuple est d'accord, et donc là, de leur propre voix, ils entendent les dix commandements. Et nous avons donc, pendant le culte, réfléchi, qu'est-ce que c'était, quels sont les dix commandements. Je vais les retrouver facilement dans votre Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, tu respecteras le sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, je pense que ce sont les plus connus, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Moïse monte ensuite vers l'Éternel pour recevoir les tables de la loi, les commandements, l'ensemble des commandements, la façon dont il doit construire le tabernacle, etc., et toute l'administration du peuple. Et pendant ce temps, donc, les Israélites construisent un veau d'or et se réjouissent autour du veau d'or, autour d'un acte d'idolâtre, hein, ils disent à leur fabrication, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Et donc, bien sûr, Dieu est en colère. Moïse brise les tables de la loi. Il y a une purification qui est faite dans le peuple. Et donc, Moïse intercède pour obtenir le pardon du peuple. Ce qui se produit, le peuple est pardonné. Ils vont recevoir de nouvelles lois, de nouvelles tables de la loi. Et ils vont se mettre en route pour la terre promise. Et donc, il y a différentes pérégrinations dans le désert, mais l'alliance démarre là, sur le mont Sinaï. Ce qui est intéressant, qui nous intéresse dimanche, c'est le contenu de l'alliance. Et donc, on retrouve cela très en détail, de façon très structurée, dans le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, a une structure, un plan d'écriture bien particulier qui est construit sur la façon dont était établi au 14e siècle avant Jésus-Christ, la façon dont étaient établis les traités de suzeraineté entre un vassal et son suzerain. Et donc on a retrouvé des documents de cette époque-là, notamment chez les Hittites, et sont des grands documents gravés sur des bronzes ou sur des tablettes de pierre. Et donc ils sont tous une structure. On trouve d'abord un préambule, on trouve un prologue, un contexte historique, et les clauses de l'alliance. Ensuite, on va trouver la ratification avec la question des bénédictions et des malédictions et un transfert de responsabilité. Il y a vraiment cette question de la position du peuple par rapport au Dieu et à l'éternel Dieu est fondamentale. C'est l'éternel qui les a fait sortir d'Égypte. Il a été les chercher. Ils étaient esclaves. Ils gémissaient, ont assassiné leurs enfants. Il a été les chercher, il les a fait sortir et ils ont convenu, accepté d'être le peuple de Dieu. Et donc de se soumettre à ses lois. Et donc on retrouve dans le livre de Deutéronome un traité de suzeraineté. Alors, différents passages que vous pouvez retrouver dans votre Bible. Pour le prologue historique, on a balayé donc tout le livre de Deutéronome. On a lu certains passages, notamment le prologue historique, donc qui va du chapitre 1, verset 1 au verset 5. Le préambule, on a lu le verset 3, donc c'est le contexte. Le prologue historique, chapitre 1, verset 6 à chapitre 4, verset 43, et donc nous avons lu le passage tout à fait à la fin, Deutéronome 4, verset 32 à 37, que je vous encourage à parcourir. Les clauses de l'alliance, c'est les exigences principales, ce qui est le cœur de cette alliance entre l'Éternel et son peuple. Donc on les trouve du chapitre 4 du verset 44 jusqu'au chapitre 11 verset 32. Et donc nous avons également parcouru tous ces chapitres en faisant un petit focus donc sur le Deutéronome chapitre 6 verset 1 à 7. Vous savez, c'est ce fameux chapitre où la loi est résumée dans ce commandement: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. On a avancé également donc du chapitre 7 à 10, et on a lu le chapitre 11, verset 26 à 28. Ensuite, les clauses de l'alliance, donc les dispositions supplémentaires ou particulières. Donc là, on va davantage rentrer dans les détails, une sorte de code civil, on pourrait dire, qui est assez élaboré. Beaucoup d'historiens ont dit, mais non, c'est pas possible que à une époque si reculée, et il y a un code de loi aussi sophistiqué qui ait pu être mis en place, et jusqu'à ce qu'on retrouve dans l'Orient ancien des codes de loi de différentes origines et qui pouvaient être aussi également très détaillés. Et c'est intéressant de comparer d'ailleurs le code de la loi de Moïse avec ce qui se faisait de mieux à cette époque-là en Mésopotamie et ailleurs, et on voit que le code de la loi de Moïse est vraiment un code avec un très grand souci de justice sociale qui n'existe pas dans les autres codes. C'est vraiment un code très moderne et Dieu, par la bouche de Moïse, soulève ce point particulier de cette belle et grande loi qui va les différencier de tous les peuples de la terre. Donc nous avons lu chapitre 12, verset 1, donc l'introduction des clauses supplémentaires, ensuite lecture chapitre 18, verset 15 à 22, et on va le lire ensemble maintenant. Donc je fais la lecture de Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 22. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et je leur dirai tout ce que je lui commanderai. » Et il leur dira, pardon, tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je n'ai pas dite, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et donc ici, on a l'explication de la façon dont l'Éternel, le suzerain, va s'adresser à son vassal, Israël. Israël ne veut pas qu'on lui parle directement. Et donc, il va y avoir ça va être le rôle des prophètes. Dieu va mettre ses paroles pour son peuple dans la bouche des prophètes, et ainsi le peuple pourra savoir les paroles de leur suzerain, ce que le suzerain attend d'eux, ce qu'il a à leur dire, sans être terrorisé. Et donc, le fait de prophétie et l'accomplissement de ces prophéties permettra de savoir si cet homme-là est vraiment un prophète de l'Éternel ou si c'est un faux prophète. Alors ensuite, autre partie très intéressante, la ratification de l'Alliance, chapitre 27, verset 1 à chapitre 30, verset 20. Donc une fois que le peuple allait rentrer dans la terre promise, il devait y avoir la partie de ratification de l'alliance, et donc la moitié du peuple sur le mont Ebal, l'autre moitié du peuple sur le mont Garizim, et donc il y a prononciation des bénédictions et des malédictions que l'on trouve donc dans le livre de Deutéronome. Et il y a également un autel qui va être sur le mont Ebal, qui va être construit Moïse, puisque Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, c'est son successeur Josué. Il a construit un, un autel, il y a des pierres qui ont été dressées en huit de chaux, et dessus ont été écrits tout le texte de la loi, ce traité de suzeraineté, le livre de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et il va être lu, et il va y avoir la prononciation des bénédictions et des malédictions. Et donc c'est très intéressant parce que lors de fouilles géologiques, il y a des endroits avec sur le mont Ebal avec un amoncellement de pierres, et donc il y a eu un archéologue qui a eu l'idée de regarder qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dessous, et donc il a été dégagé un hôtel très ancien qui est désigné comme l'hôtel de Josué. Bon, il a été utilisé certainement, le temps de Josué a été utilisé aussi à cours des siècles qui ont suivi, n'a pas été utilisé visiblement qu'une fois, mais on a un témoin encore aujourd'hui de ces bénédictions et de ces malédictions et de l'engagement du peuple d'Israël. Et c'est très intéressant parce que dans le Deutéronome, cet engagement et cette alliance, elle est mis en place non seulement pour les personnes qui sont là, physiquement présentes, mais également, dit le texte, pour les personnes qui ne sont pas là, physiquement. Et donc, on peut comprendre que l'alliance a été scellée une fois pour toutes, pour tous les Israël, pour tous les descendants d'Israël. Donc, cette alliance est réalisée une fois pour toutes, pour ceux qui étaient présents et pour tous leur descendants, toute la descendance d'Israël. Donc, on a fait la lecture également de Deutéronome 30, 19 à 20, qui termine un petit peu ce passage. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et le prolongement de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. La suite du Deutéronome, il s'agit du transfert de responsabilité entre Moïse et Josué, et également une large place qui est mise par un cantique que le peuple devait apprendre pour sceller cette alliance. C'est vraiment difficile d'apprendre par cœur toute la Torah, mais un chant, ça c'était quand même des choses qui étaient tout à fait possibles de faire, et donc au chapitre 32, il y a un chant prophétique de mise en garde qui se trouve là. Donc, en ce qui concerne le contenu de l'alliance. Alors, nous aujourd'hui, en quoi tout cela nous concerne-t-il finalement? Nous ne sommes pas israélites, nous sommes loin que 3600 ans de ces faits, du moment où a été contractée cette alliance. Alors, est-ce que cela nous concerne? Cela nous concerne, oui. Parce que vous avez vu que Moïse avait annoncé la venue d'un prophète comme lui, un prophète comme lui, qui verrait Dieu face à face et qui pourrait faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc, ce prophète qui allait apporter la parole de Dieu au peuple de façon directe et puissante, comme a été le ministère de Moïse, c'est Jésus-Christ, hein. Jésus qui est ce prophète. Il est non seulement un prophète, il est le Fils de Dieu incarné dans un corps comme le nôtre. Et donc les Israélites étaient terrorisés à la vue du mont Sinaï qui était embrasé, vous savez. Mais avec Jésus, c'est différent. Jésus s'est vraiment approché du peuple, il s'est approché de nous, il a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Et par Jésus, Dieu s'approche de nous et nous parle sans nous terroriser. Jésus-Christ est le nouveau Moïse. Et donc nous qui sommes chrétiens, nous sommes au bénéfice de ce prophète. Jésus-Christ a inauguré une nouvelle alliance, comme l'avait fait Moïse avec l'ancienne. On appelle l'ancienne parce que Jésus-Christ en a inauguré une nouvelle, non avec les sangs des animaux, mais avec son propre sang. Non avec tout le peuple, mais avec des individus. C'est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est que la nouvelle alliance est personnalisée. On n'est pas dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, parce que nos parents, il y a des siècles, se sont engagés dedans, et donc nous ont entraînés dans l'alliance. On entre dans la nouvelle alliance par une décision personnelle, Alors, quelles sont les exigences principales de cette nouvelle alliance? Bon, c'est rarement présenté comme cela, la bonne nouvelle de l'Évangile. Même, je me suis réfléchi un petit peu, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que Dieu attend de plus important dans sa nouvelle alliance. Alors, j'ai noté la repentance. Le passage par la repentance est un passage obligé de la nouvelle alliance. Croire dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, écrit Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 10. Aimer, suivre, obéir à Jésus et aimer ce qui aime Jésus. On est là dans le cœur de ce que Dieu attend du chrétien. Et puis il y a des dispositions supplémentaires. Et on peut trouver dans les paroles que Jésus a prononcées toutes ces dispositions supplémentaires qui régissent le royaume de Jésus. Un parallèle saisissant, c'est le sermon sur la montagne. Il y a deux montagnes, mais qui sont radicalement différentes. Et le sermon sur la montagne que Jésus a prononcé, où il a présenté les lois de son royaume, sont radicalement différentes. Jésus commence son discours par les 9 béatitudes, vous savez, heureux celui qui. Et les premières paroles que les disciples ont entendues, c'est heureux. 9 béatitudes. Est-ce que l'on se souvient des 9 béatitudes? Alors, Matthieu chapitre 5, donc vous les trouverez chez Matthieu chapitre 5, mais essayez de faire l'effort de vous en souvenir de ces 9 béatitudes. On a fait l'exercice tous ensemble lors du culte et c'était très intéressant de le faire. Et ce sont des choses qui sont très très bonnes d'apprendre des passages de la Bible en entier, surtout les paroles de Jésus, les mémoriser. Il a prononcé également, dans ce fameux sermon sur la montagne, les 6 fois, moi je vous dis que, en se référant à la loi de Moïse, et en disant, moi je vous dis que, voilà, ce qui va changer. Et donc essayez d'en retrouver quelques-uns, et puis vous pouvez aller voir ensuite les résultats dans votre livre, Matthieu chapitre 5 et 6. Et donc, autre disposition, il y a les paroles de Jésus, et il y a également les enseignements des apôtres dans les épîtres, qui sont en notre possession. Alors, comment est ratifiée cette nouvelle alliance, si on fait un parallèle entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Il n'y a pas de bénédiction ni de malédiction à prononcer pour ratifier, pour rentrer dans la nouvelle alliance. Mais je pense qu'on peut faire un parallèle avec le baptême. Passer par les eaux du baptême, c'est le moment où on s'engage, où on dit à haute voix, où il y a des témoins qui nous entendent. Voilà, je désire être disciple de Jésus-Christ. Je fais le choix de le suivre. J'ai compris ce qu'il attend de moi, il m'a sauvé, j'ai reçu le pardon de mes fautes, son sang a été versé pour moi, j'entre dans cette nouvelle alliance. Et donc, l'invitation à travers ce message, si certains d'entre nous ne sont pas baptisés de cette façon, ou en tant que personne responsable, en tant que croyant, on déclare sa foi à haute voix, c'est quelque chose qu'il faut faire. Quel rapport avec les prophètes, direz-vous, de cette ancienne alliance? Bon, vu, pour en revenir un petit peu à notre introduction d'Ésaïe, peut-être j'aurais dû commencer par ça, le suzerain et le peuple vassal, le dieu qui suzerain, le peuple qui est vassal, et donc il y a une relation, un contrat qui est signé, il y a des engagements qui sont pris, et tout le suite de la Bible va consister à évaluer qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait de son traité de suzeraineté. Qu'est-ce qu'il a fait de son engagement? Est-ce qu'il a rempli sa partie? Est-ce que Dieu a rempli sa partie? Et voilà un petit peu les enjeux de tous les textes qui suivent. Alors, dans nos Bibles, en reprenant l'organisation des Bibles qui avait été faite dans la traduction de la Septante, la traduction grecque, où on a organisé après la Torah, donc il y a ce qu'on appelle les livres historiques, Josué, Juge, et Roi de Roi, etc. Donc, nous, dans notre Bible, on introduit, avant les livres de Samuel, il y a le livre de Ruth, puis Samuel, puis un roi de roi. Et la Bible hébraïque est organisée différemment. Il y a un groupe de livres, un de Samuel, un roi de roi, qui constitue ce qui est appelé les premiers prophètes, et ensuite un autre groupe avec les derniers prophètes, en commençant par Ésaïe. Et donc, tous ces textes qu'on considère comme historiques sont en fait des textes qui sont compris par les rabbins comme une lecture qui doit être prophétique. Le but, ce n'est pas de raconter l'histoire, le but, c'est de raconter la façon dont Dieu a géré sa partie de l'alliance et comment le peuple d'Israël a géré sa partie de l'alliance. Et donc, c'est fondamental pour comprendre les prophètes de comprendre parfaitement l'engagement de l'alliance du Mont Sinaï et le développement très précis qu'on a dans le Deutéronome. Voilà donc ce qui constituera le deuxième message sur l'introduction du prophète Ésaïe. Il restera à voir après un petit peu savoir qu'est-ce qui s'est passé du temps d'Ésaïe. Donc là, on a la Bible qui va nous renseigner. Et on sera prêt ensuite à nous plonger dans ce magnifique texte d'Ésaïe. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Bonne semaine à chacun avec la paix de Jésus.